Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci de nous rejoindre dans Radio Foot International dans notre studio ici à RFI à Paris avec le soleil et une fin d'après-midi où eh bien nous avons encore la tête dans les étoiles. Depuis un mois, les Bleus et leurs supporters savourent le titre de champion du monde, le deuxième de la France 20 ans après, un peu comme dans le roman d'Alexandre Dumas, une prouesse, une conquête qui ne dure que 4 ans, l'occasion d'y revenir en ce jour férié où les ballons ronds sont encore rares à rouler sur les pelouses. Quel était d'ailleurs le style de cette équipe façonnée par Didier Deschamps? A-t-elle profité de l'élimination plus ou moins précoce des gros adversaires? Cette équipe va-t-elle régner encore longtemps, comme par exemple la Roja espagnole qui l'avait précédé dans les palmarès grâce à la jeunesse des talents français? Eh bien, nous en parlerons dans Radio Foot. L'arbitrage vidéo, ou l'assistance vidéo, comme on peut l'appeler aussi, a donc rythmé la coupe en Russie. Est-elle désormais incontestable? La technologie a-t-elle gagné sa place? En tout cas, les championnats européens installent peu à peu le système autour des terrains Angleterre, France et Espagne cette saison. CR7 chez la vieille dame. La superstar portugaise débutera vendredi soir en Serie A après son transfert au cœur de l'été pendant la Coupe du Monde, pour le plus grand bonheur des tifosi, mais sans un regard ni un adieu pour l'affection de Madrid. Pourquoi cette sortie discrète, tristesse, amertume de la part de Cristiano? Eh bien, nous en parlerons notamment avec Philippe Doucet, notre confrère de Canal+, qui est revenu de vacances lui aussi. Bonjour Philippe.
Ça se voit tant que ça. Bonjour.
Tous un peu dans le même sillage, on va dire. Shérif Guémour, non, il revient de pas vacances, il nous l'a dit, il a écrit, encore. Il a travaillé, SoFoot, ils sont parus pendant l'été. Bonjour Shérif.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
SoFoot notamment, que je vous invite à lire, spécial Coupe du Monde, bien sûr, spécial Russie, spécial Victoire. Freddy Koula, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour chers auditeurs.
Vacances
ouais,
en France.
Retour de vacances.
Hein.
Comme Philippe Doucet, je fais le tour du sud de la France aussi.
Et puis nos deux confrères de la rédaction qui étaient aussi en Russie avec nous. C'était Christophe Jousset et Farid Achaj. Bonjour messieurs.
Bonjour Annie.
Salut.
Bonjour
Annie.
À tous.
Alors Christophe, vous avez une belle écharpe, il faut la décrire.
Ah, une écharpe qui rappelle des souvenirs.
Collector.
Je crois qu'on l'a acheté ensemble il y a un mois, non c'est pas ça?
Il semble.
Ouais, France-Croatie, c'est écrit dessus France-Croatie. Bon, c'était la finale de la Coupe du Monde il y a un mois.
Elles sont très belles et très saillantes.
C'est marrant, quoi, que France.
Double face.
Non, non, mais c'est sincèrement.
Elles sont en soie en plus, ouais. Alors ça peut
on
se porter.
On s'est dit, on va l'acheter avant le match, elle aura peut-être de la valeur après.
Non, faut pas l'avant, faut
elle est sous ton oreiller aussi, du coup.
T'as pas le choix parce que l'écharpe avec France-Croatie 4-2, elle n'existe pas. Si tu veux. Elle n'a pas été imprimée.
Ils auraient dû la vendre à la fin du match, quand même, ça aurait été rapide. Allez, Radio Foot, c'est parti.
On est parti sur le terrain et on a tout cassé. Hey, 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 on a tout cassé. Hey,
on a tout cassé.
Hey, oui, les gars, vous avez vibré.
Il est gentil, il va bouffer Léo Messi. Bientôt sur les Champs-Élysées, N'Golo Kanté.
Benjamin Pavard, je ne crois pas que vous connaissiez. Victor de Luba, ultra de Draca, on a Benjamin Pavard.
Énorme. Allez, bisous, bisous, vive la France, vive la République.
Et voilà la victoire, de quoi chanter tout l'été, hein, grâce aux Bleus, de quoi renouveler aussi le répertoire des chansons dédiées à l'équipe de France, parce que I Will Survive avait quand même déjà 20 ans. En tout cas, vous avez dû reconnaître la voix d'Antoine Grenier qui s'étranglait dans ce stade Loujniki à la fin du match avec Olivier Pron. On entendait aussi Paul Pogba haranguer la foule. C'était à l'Élysée pour fêter le titre et puis ses chansons dédiées aux héros de la fête donc dans l'Hexagone. Alors deux étoiles, évidemment, ils en rêvaient, tout le monde en rêvait, ils l'ont décroché cette deuxième étoile. Alors en ce jour de l'Assomption, Philippe Doucet, n'est-ce pas? Je dis ça à Philippe parce que c'est une date importante dans son calendrier personnel. La tentation est bien d'aller dans les étoiles aujourd'hui nous a évidemment séduit. Le stade Loujniki, d'ailleurs, on s'en était aperçu de trois jours après, n'est-ce pas, Farid? Mm-hmm. Son toit rond, très joli, eh bien, clignotait encore le nom de la France comme World Champion.
Champion du monde.
Hein, alors c'était en français et en...
C'était en anglais, en français.
En anglais et en français.
Et en russe aussi.
Et en russe, évidemment, et ça clignotait. Quel est votre souvenir? Vous l'avez vu où, vous, cette finale?
Moi, j'étais à Bordeaux dans le stade Chaban-Delmas.
C'était avec des Français.
Que, voilà, le maire de Bordeaux avait organisé
une projection
dans le stade Chaban-Delmas. Et malheureusement, après 20 minutes, il y avait eu la pluie et donc on a dû se rabattre dans les petits pubs autour de la ville de Bordeaux. Et après, on a fêté ça à la place de la victoire.
C'est la dernière fois qu'il a plu à Bordeaux. C'est dommage. Ouais, il n'a pas eu de chance, parce qu'il n'a pas plu depuis.
Voilà, on a fêté ça parce que moi, je me suis plongé aussi dans l'ambiance, l'euphorie qu'il y a eu tout autour, les gens qui sont sortis dans la rue de façon extraordinaire. J'avais jamais vu ça de ma vie. Bon, si, c'est arrivé une fois quand le Gabon a battu le Cameroun en 2010 à la CAN, mais voilà, voir tout cette liesse là et voir cette équipe de France là transcender, c'était extraordinaire.
Ouais, on aurait dit des images presque d'archives qui se répétaient, Chérif. Hein. Vous étiez au boulot?
Non, avec des amis. J'ai essayé d'être sobre parce que j'avais un rendez-vous à 20h, mais ça m'a permis justement de partir très tôt. Malheureusement, j'ai pas vu la remise. Mais par contre, j'ai vu l'extraordinaire euphorie, les klaxons, les gens dans la rue, mais c'était, faut le voir.
En France.
Apparemment, c'était un peu inquiétant parce que les gens roulaient vraiment comme des dingues, dans la relation qui est vraie. Et donc, à Paris, j'avais jamais vu un métro bondé où tout le monde saute. Là, le métro a dû s'arrêter. Enfin, que des trucs comme ça, quoi. Non, moi, ce que je retiens, c'est sur ça, c'est l'immense fête populaire. Nous, les journalistes, avec nos commentaires très foot, très sport et tout, on n'a pas été, peut-être toujours très 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 à la fête, très très avisé. Les Français
très visionnaire, peut-être non plus.
Non, c'est pas ça. C'est que même les Français, les supporters français, ont douté de leur équipe et les sondages sont là pour le montrer, notamment après France-Pérou, France-Danemark et tout. Et à l'arrivée, l'équipe de France a gagné. Le peuple était content et c'est le peuple qui a raison et c'est très bien. Ils ont fait la fête. Et puis nous, si on n'est pas bon, si on est très sport, pas avisé, on s'en fout. Les gens sont contents, ils ont fait la fête et puis voilà.
Philippe. Hein.
J'arrive à tout résumer, c'est-à-dire que évidemment le côté purement foot, bon, il concerne aussi quand même, il y a 6-7 millions de personnes qui toute l'année regardent du foot, qui sont passionnés de foot, mais là ça dépasse, quoi. C'est pas 66 millions, mais c'est au moins 30-35 millions de gens qui tout d'un coup ont un élan fort, donc c'est 20-25 millions, bah faut pas leur gâcher la fête en disant bah, c'était pas terrible, ça jouait pas bien, tout ça, ça a aucun intérêt, on s'en fiche complètement à ce moment-là. C'est autre chose, c'est un autre débat, c'est une liesse populaire, il faut le prendre comme tel. Ouais. Et en ce sens-là, c'était une magnifique fête. Voilà.
Et d'ailleurs, oui, ces refrains populaires là, enchaînés par Richard Ifono, c'est vrai qu'en France maintenant, dans la moindre fête de village et tout, c'est des chansons qu'on entend. Donc les gens ont pris effectivement, se sont un peu approprié cette fête et
On a l'habitude maintenant. La Coupe du Monde qu'on trimballe de village en village, c'est bon.
Bon, Farid et...
Pour nous, c'était un peu spécial quand même, puisqu'on
Farid,
est resté après.
Vous étiez au micro en plus.
Moi, j'étais au micro, j'étais surtout
vous
écrit
avec
sur...
Antoine et Olivier.
Avec Olivier, surtout écrit pour le site, mais ce qui était un peu spécial pour nous, enfin pour moi en tout cas, c'était de rester à Moscou après la finale et de ne pas vivre la liesse à Paris, de ne pas voir le lundi débarquer les joueurs à l'aéroport, de ne pas débarquer moi-même. Comment ?
C'était très court.
Ça existait.
ça oui.
Donc moi, je suis revenu 5 jours après ou 4 jours après, je sais plus.
Les défilés sur la place Rouge étaient plus longs, hein, à l'époque.
À l'époque, si on veut, ouais. Donc je suis revenu quelques jours après et je ne veux pas plomber l'ambiance, mais j'avais l'impression que c'était retombé très vite.
Ah oui, non.
Voilà. Donc, ça m'a
partout,
fait un peu bizarre.
En France, on voyait ces petits drapeaux partout, on voyait les gens qui en parlaient, qui portent les maillots surtout, parce qu'on les voit, même si ce maillot, deux étoiles, n'est toujours pas en vente. Christophe, le soufflet est-il retombé? Non.
Non, non. Moi, je trouve que ça continue. Moi, j'ai suivi
c'est
ça.
C'est dans l'air.
Ouais. Il y a. Bon, j'étais quelques jours après, début de vacances, dans une fête de village, justement, en Haute-Vienne. Et bon, il y avait des maillots bleus un peu partout, effectivement, la musique qui rappelait ce bon moment. Et je pense que ça va durer encore un petit peu. Vous voyez, on entretient aussi ça. Nzonzi vient de signer, on me dit c'est le premier champion du monde à changer de club depuis le titre. Ça va durer comme ça encore pendant au moins 4 ans.
Ouais. Moi, j'étais au pied du Ventoux dans une fête de village, c'était pareil. Il y avait les chansons, il y avait même la Marseillaise en plein milieu d'une fête de village que les jeunes, les ados chantent à poumons déployés, mais simplement en se souvenant évidemment de la victoire, quoi.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que 98, j'étais beaucoup plus jeune, et peut-être que j'avais idéalisé le moment parce que c'était pas mon métier.
C'était la première fois aussi.
C'était la première fois, puis c'était pas mon métier.
C'était en France.
Ouais, donc c'était peut-être différent.
On était tous là.
Mais j'ai peut-être vécu le moment différemment parce que je suis quand même en Russie. Le lendemain, c'était terminé. Je me souviens que c'était la finale était le dimanche. Le lundi soir, on enlevait déjà tout ce qui concernait le mondial en Russie, dans les rues, les affiches.
Sur le stade Luzhniki, oui, où voilà, on continue.
Donc c'était un peu bizarre. Ouais. Ouais.
En tout cas, Philippe, nous, quand même, comme on est une émission sportive, on va s'attacher plutôt aux thématiques sportives maintenant et au style de cette équipe de France. Arrêtons-nous un peu parce que on n'a pas eu le temps, évidemment, le lendemain de la victoire qui était la dernière émission de Radio Foot. On n'avait pas eu trop le temps de s'y arrêter. On sait que Didier Deschamps, pour parvenir à son objectif et à l'objectif que s'étaient fixé évidemment les joueurs, c'était eh bien de sacrifier peut-être le rôle de certains joueurs et notamment de certains attaquants pour jouer à la mode des colchoneros, à la mode de l'Atlético. Écoutons Diego Simeone qui s'exprimait hier du côté de Tallinn et l'entraîneur argentin des Madrilènes eh bien répond à ce sujet.
Ce qu'il y a de merveilleux dans le football, c'est que personne ne détient la vérité. On peut gagner de différentes manières. Et à la Coupe du Monde, nous l'avons encore constaté avec l'équipe de France, qu'on a beaucoup comparé à l'Atlético Madrid. Et il est clair qu'il y a des ressemblances.
Il y a des ressemblances, Philippe. C'est une équipe, comme on dit, casse-pied à jouer. L'équipe de France, dans sa manière, un peu comme l'Atlético.
Moi, je me rappelle, je n'ai pas toujours été très avisé, comme vous le disiez à Chérif, durant cette Coupe du Monde. Mais par contre, sur l'équipe de France, après le match contre le Pérou,
moi aussi.
Ma première réflexion, c'est de se dire...
Son final.
Elle ne sera pas brillante, cette équipe, elle ne sera jamais brillante. C'est même pas la peine d'espérer, elle ne sera jamais brillante. Mais elle sera très, très difficile à battre. Et c'est ce que j'ai pensé tout de suite, en voyant cette équipe, en se disant vraiment, en termes de densité physique, en termes d'impact, en termes d'engagement des joueurs qui commençaient à démarrer sur ce match du Pérou, etc., je voyais déjà une équipe qui, effectivement, avait le potentiel de gagner.
De talent individuel aussi.
Ça, on le savait dès le début, enfin, à part les gens aveugles ou pessimistes de nature. L'équipe de France avait évidemment le niveau pour remporter cette Coupe du Monde. Et on l'a vu dès le match contre le Pérou, mais en sachant que cette équipe ne brillerait pas, elle ne serait pas brillante. Il n'y avait aucune chance qu'elle le soit. C'était un choix assumé. Et le débat sur elle aurait pu jouer autrement n'a pas lieu d'être. Peut-être que le Brésil 70 aurait peut-être pu être champion du monde en jouant de façon dégueulasse. Mais comme il ne l'a pas fait, qu'est-ce que vous voulez qu'on analyse aujourd'hui? Ça n'a pas de sens. On ne peut pas comparer.
Non, parce que c'est plus compliqué en fait. C'est pas une équipe d'un bloc avec un jeu monolithique et unique. Non, il y a des matchs. Ils ont pris par exemple contre l'Uruguay, l'équipe de France fait le jeu du début à la fin. Ils ont le match en main. C'est pas vrai qu'ils ont attendu les Uruguayens. Ils sont allés les prendre. Ils ont joué. Ils ont dominé. Contre la Belgique, on dit ouais, ils ont joué un peu crevard. Et non, quand on regarde, les Belges n'ont pas énormément d'occasions dangereuses, voire pas du tout. Enfin, ils ont été dangereux, mais vraiment des actions nettes, il y en a pas beaucoup. Il y a des moments de folie contre l'Argentine ou contre la Croatie, mais les moments de folie, c'est jamais un hasard. Si ça arrive une fois, comme c'était arrivé déjà contre le Pérou, 10 minutes, un quart d'heure, voilà.
Non, mais le talent des joueurs offensifs, il est évident.
Ouais, mais après, il y a des phases qui durent longtemps aussi. Enfin, quand en deuxième temps contre la Croatie et contre l'Argentine, surtout. Non, après, c'est les vrais buts. Et à côté de ça, il y a... Oui, alors le bloc qui joue très très bas, comme on est, pour reprendre la très bonne blague, Giroud qui joue stopper. Non, c'est difficilement regardable. Et puis bon, quand on regarde la première mi-temps contre la Croatie en finale, moi je vois qu'une équipe sur le terrain, c'est la Croatie. Et puis voilà,
ils ont souffert. Oui, ça c'est
voilà, il y a un but contre son camp et puis un penalty, on le siffle, on siffle pas, peu importe. Et l'équipe de France mène 2-1 à la mi-temps. Donc voilà, mais ils en remettent deux en deuxième mi-temps. Mais c'est plus compliqué que ça, à dire que l'équipe de France n'a fait que déjouer, a joué avec un bloc reculé, sans rien proposer, c'est pas vrai non plus.
Non. Christophe. Non, elle a poussé les contres. Elle a poussé les contres, elle a joué
pas des contres.
Puis le nombre de buts aussi, le nombre de buts, c'était l'argument de Didier Deschamps aussi. Regardez combien on a marqué de buts, je crois que c'est 11.
Ça fait taire.
Donc 4 en finale.
Ça fait taire tout le monde. En même temps, on peut avoir tous les avis du monde, mais ça fait taire tout le monde. Ouais.
Voilà.
Ce qui est intéressant, peut-être, c'est il y a une bonne interview de Klopp dans France Foot cette semaine. Et il parle de ça, justement. Il dit, Deschamps aurait pu faire jouer cette équipe complètement différemment. Il aurait pu les laisser jouer, courir, exciter toute la planète pour montrer à quel point le football français était beau, mais il a fait preuve d'une grande maturité, il a calmé et discipliné tout le monde, quitte à rendre les matchs parfois un peu ennuyeux, donc voilà, il observe ça aussi. Le boulot d'un technicien, c'est d'utiliser les qualités de son équipe de la meilleure façon.
Ouais. Freddy, ouais.
Génial. Non,
c'est même résumé. Si lui fait un choix inverse. Lui est un coach flamboyant, même parfois jusqu'à certaine dose même de prise de risque qu'il ne devrait pas prendre.
Klopp, c'est par exemple ce qu'il a fait au premier match avec trois attaquants. Mbappé, Griezmann et Dembélé.
La prise de risque avec trois attaquants, Chérif, c'est le minimum quand même, non?
Mais ça n'a pas marché. Freddy, ça a calmé tout de suite.
Ce que dit Klopp, c'est un résumé parfait de ce qu'est la personnalité de Didier Deschamps. Je me souviens que j'ai regardé il n'y a pas longtemps un documentaire, je pense France 2, sur Didier Deschamps. C'est une personnalité il est obsédé par l'envie de gagner. Et quand on est obsédé par l'envie de gagner, naturellement, on voit pas forcément cette envie de bien jouer d'abord, on voit le résultat final. Et lui est parti avec cette équipe-là dès le début, il a dit, il veut une équipe de compétiteurs, avec naturellement cet esprit de gagneur qui va à une coupe. Quand on va à une coupe, naturellement, ce qu'on a à l'idée, premièrement, c'est de gagner. Qu'importe la manière. Et moi, j'avais bien entendu, ça avait fait marrer pas mal de gens, mais ce qu'avait dit Griezmann, je pense, à la veille de la finale ou de la demi-finale, en disant, nous, on s'en fout de bien jouer, on s'en fout de montrer du bon jeu. Ce qu'on veut, c'est l'étoile, c'est la deuxième étoile. Sûr. C'était un résumé ultra parfait. Et moi, je dis aujourd'hui, j'en avais parlé il y a pas longtemps sur Radio Foot, j'ai dit peut-être que Guardiola et les Espagnols, ils ont rendu un mauvais service au football parce qu'ils nous ont tellement fait rêver, ils nous ont tellement montré de belles choses qu'aujourd'hui, tout le monde fait la comparaison en disant, quand une équipe gagne, elle doit pouvoir bien jouer. Mais c'est pas toujours le cas. La France la France n'a pas toujours bien
même
joué.
Même avant Guardiola, il a existé
dès les années 20.
Ouais, je trouve extrêmement injuste.
Regardez, le vainqueur était beau, le vainqueur n'est pas beau.
Non, mais
on l'a toujours fait.
Est-ce que je trouve injuste?
On l'a toujours fait.
Ce que je trouve injuste, c'est justement les commentaires des commentateurs des journalistes français, mais cette équipe de France-là, où l'équipe de France a rarement très bien joué au football. Pourtant, même en 98, ils n'ont pas toujours eu un grand football.
Tu n'étais pas né.
Si, j'écoutais RFI dans mon petit village à Moncab et Moabi, mais je savais comment...
Regarde France-Brésil 86 sur une cassette et tu verras ce que
c'est. En 98, c'était pas du grand football en 98, mais pourtant c'était l'efficacité, c'était l'italien.
Farid ?
Non, mais moi je pense que là où Deschamps a réussi quelque chose, c'est qu'il a réussi à faire à ses joueurs des choses que eux ne soupçonnaient pas possibles. Quand on regarde Griezmann à la Coupe du Monde et on regarde Griezmann à l'Euro, c'est deux Griezmann différents. Quand on regarde Giroud à la Coupe du Monde, quand on regarde Giroud à l'Euro, c'est deux Giroud différents. Et c'est ça.
Mais c'est surtout Pogba.
Et Pogba aussi.
Je mettrais Pogba dans cette liste parce que c'est le plus.
Et c'est là où il a réussi quelque chose, c'est-à-dire qu'il leur a fait faire quelque chose que eux ne soupçonnaient pas. Il les a forcés à faire quelque chose. Il leur a dit c'est comme ça qu'il faut faire. Et finalement, eux se sont exécutés. Et je pense que c'est Deschamps qui a eu la clé, en fait.
Mais il y a aussi cet esprit.
La clé Deschamps.
Excusez-moi, mais il y a aussi l'esprit de ces gamins-là. Moi, j'ai vu, par exemple, il y a deux jours, Guardiola qui disait à Benjamin Mendy, qui nous taquinait sur les réseaux sociaux. Mais à travers les réseaux, on a vu comment ces gamins-là pouvaient vivre ensemble, comment ils ont pris l'esprit de groupe comme vraiment un esprit familial. Ils sont très jeunes en majorité, mais ça rigolait tout le temps, ça se taquinait. Cet esprit de groupe-là, cette familiarité,
on avait l'impression que c'était vraiment la concentration, vraiment des matchs,
vraiment des copains. On était vraiment loin de cette affaire d'être très sérieux. Et tout
pour
ça.
Revenir à la question de départ, Madame Annie, quand même, c'est important. Les questions de Madame Annie, il faut les
très,
considérer.
Très important,
comparaison avec l'Atlético, je crois que les compétitions d'équipe nationale, de sélection nationale, n'atteignent pas le très haut niveau des clubs. Ça, je crois que des gens ne comprennent pas ça, mais c'est tellement évident qu'évidemment l'Espagne ressemble beaucoup au Barça ou au Real, sauf qu'il n'y a ni Ronaldo, ni Messi, ni Suarez, ni Neymar. Comment vous voulez qu'ils soient au même niveau? Bon, ça me paraît très simple pourtant. Mais bon, le football actuel le football actuel, c'est comme ça. Les sélections nationales, c'est le top niveau en termes de pression, en termes d'importance du trophée, en termes de plein de choses, mais pas sur le terrain. Et pour gagner une compétition de haut niveau, c'est beaucoup plus simple de jouer comme l'Atlético que comme le Barça.
Exactement.
Pour jouer comme le Barça, il faut un football collectif huilé depuis des années. Alors l'Espagne pouvait le faire, ou l'Allemagne pouvait le faire, parce que ils ont des ossatures plus fortes, déjà. Une ossature Bayern, une ossature Barcelone beaucoup plus forte. Et puis des années et des années à jouer de la même manière. L'équipe de France ne pouvait pas improviser ça pendant la Coupe du Monde. Ça n'existe pas, ça.
Farid. En même temps, l'Espagne face à la Russie, elle n'y arrivait pas.
Oui.
Elle n'a pas réussi à proposer autre chose.
Mais oui. Elle faisait des passes, mais c'était une
faiblesse.
Ceci dit, Philippe, l'expérience de l'Euro a beaucoup servi.
Et oui.
Comme on n'est pas un club, on est une sélection nationale. C'est parce que c'est ce qui a manqué à la Belgique. La Belgique, ils ont été beaucoup trop absents des compétitions internationales pendant très longtemps. Mmh. Ils sont arrivés tardivement. Mmh. Et quand ils jouent contre la France a l'expérience. Ils avaient déjà le parcours de l'Euro, la finale. 7 matchs plus 6 matchs, ils en étaient déjà à 13 de compétitions internationales de très haut niveau. C'est pas le cas des Belges. C'est ce qui a peut-être manqué aux Belges aussi.
Est-ce que cette victoire a été facilitée par le fait que les grosses équipes ou les grands joueurs ont quitté la compétition avant, voire très tôt, comme l'Allemagne?
La seule interrogation que j'ai, c'est le Brésil. Le Brésil était quand même... le match Brésil-Belgique a été plus gros match, le match du plus haut niveau, le seul match de très très haut niveau qu'on ait vu à cette Coupe du Monde pour moi.
Espagne-Portugal,
c'est Espagne-Portugal était pas mal, mais il n'y a pas la tension parce que
c'est pas le même match.
Ouais. Mais Brésil-Belgique a été un très 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 gros match.
Énorme intensité.
Et je pense que le Brésil, oui, était le seul qui avait un football quand même capable d'être supérieur à une équipe qui se contenterait de contre-attaquer. La Belgique a eu beaucoup de réussite dans ce match-là. En étant très bonne, elle a quand même eu beaucoup de réussite.
Ouais.
Peut-être que le Brésil aurait battu la Belgique et la France en suivant. Peut-être. Mais j'en suis pas totalement persuadé. Je pense que la France était tout à fait armée à la régulière avec 35% de possession, mais à la régulière de battre l'Espagne ou l'Allemagne, je n'aurais pas été surpris, voire le Brésil aussi.
Farid, vous qui en avez vu jouer beaucoup.
Oui, moi, ce que je dirais, c'est que quand on fait le premier tour, qu'on suit les matchs du premier tour, on a toujours l'impression, par exemple, on regarde Espagne, Portugal, on a toujours l'impression que ces grandes équipes sont très très fortes, et finalement, c'est quand même au moment où on arrive en phase d'élimination de match
direct
qu'on se rend compte des faiblesses des équipes.
Oui, bien sûr. Mais l'Espagne fait un très gros match contre le Portugal, mais elle peine ensuite contre l'Iran, elle peine contre le Maroc déjà. Donc on a quand même quelques indices, et contre la Russie pour finir. Et donc on a quand même des indices que l'Espagne ne va pas survoler la Coupe du Monde. On a l'indice, on l'a dès le début.
Le match contre le Maroc, Espagne-Maroc, on voit bien que l'Espagne n'est pas...
Quand les gros sont pas là, ça facilite. Après, les compétitions, on les prend comme elles sont. Si les autres sont... Ils sont sortis. Mais... si l'Allemagne passe le premier tour, parce que mine de rien, ils ont pas démérité, ils arrivent pas à marquer des buts. Depuis l'Euro 2016, ils arrivent plus à marquer des buts, donc ça les a pénalisés. Un France-Allemagne en huitième ou en quart, moi j'aurais demandé à avoir un vrai affrontement. Et puis, la France n'est pas tombée non plus sur le groupe de la mort au premier tour, ça aide, on n'a pas, par rapport à d'autres groupes, tous ces petits trucs mis bout à bout. Et puis après, tout le reste, ils ont gagné à la régulière, donc il y a rien à dire, quoi. Puis ils sont tombés sur la...
Même si, Christophe, il n'y avait pas véritablement de groupe de la mort. Quand on regardait les groupes,
un apparent groupe de la mort, celui de l'Espagne et Portugal.
Voilà, l'Espagne, Portugal,
c'est le
Maroc.
Seul groupe où il n'y avait même pas un quart de finaliste.
Mm-hmm.
Tout le monde était sorti en huitième. Soi-disant le groupe de la mort, mais il n'a généré absolument rien.
Oui.
Croatie, Argentine. Et Nigeria, il me semble, c'était pas groupe de la mort, mais pas facile non plus.
C'est vrai qu'il y avait des groupes, effectivement, un peu... Enfin, à des niveaux, quand même, effectivement.
Bon, Australie, Danemark... Bon. Mais tant mieux, tant mieux. Pérou, grosse équipe.
Pas si mal. Voilà, Pérou, grosse équipe. Pérou, grosse équipe. Mais voilà, pas si mal.
Grosse équipe. Est-ce que cette équipe, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, elle va durer sur les compétitions et notamment, bien, de toute façon, le prochain, c'est l'Euro, Christophe.
Oui.
Non, mais à la manière de l'Espagne, évidemment, parce qu'on pense à ça, hein, l'Espagne 2008, ah, puis après, qui va durer.
Alors là, c'est un sacré défi de faire aussi bien, non, bien sûr, que l'Espagne. Mais elle a tout ce qu'il faut entre les pieds pour durer. Il suffit de regarder l'âge des joueurs et voilà.
C'est quoi, c'est 23 ans de moyenne d'âge?
Ouais. À tous les postes, peut-être. Ouais. Bon, peut-être que, je sais pas, Lloris à quel âge?
Non, mais dans c'est un gardien, ans, il pourra jusqu'à 45
ans, ça va.
31, il peut être encore là.
Je cherche, mais ouais. A priori,
Giroud sera Giroud, Matuidi seront peut-être plus là, mais, et encore, à l'Euro, on sait jamais.
Non, mais.
L'Euro n'est pas loin.
Ce n'est que dans deux ans.
Il y a trois choses. La première, c'est, comment dire? On va pas se le cacher, il y a un peu de réussite, une part de chance. Un jour, ça va peut-être cesser. On va peut-être tomber dans justement ce qui nous désespérait avant. C'est le coup de malchance, le coup de manque de réalisme, le manque de réussite. Ça, on a bien connu ça dans le football français. Cette guigne, elle peut revenir à n'importe quel moment. Donc avec des mauvaises surprises, comme ça nous est arrivé en 2002, se faire sortir au premier tour, ça peut arriver alors qu'on sortait de la Coupe du Monde et de l'Euro. Deuxièmement, il y a quand même une amélioration au niveau du jeu. On peut espérer voir à l'Euro, ce qu'on avait vu à l'Euro 2000, c'est-à-dire après une Coupe du Monde 98 un peu frustrante au niveau du jeu, une équipe totalement libérée, les gars se connaissent mieux, on va avoir une vraie attaque avec une équipe qui prend le jeu et qui est capable de le faire, et là peut-être qu'ils vont vraiment nous régaler.
Sauf que là il y aura le même entraîneur et ça sera pas la même philosophie, et ce sera la même philosophie en début.
Ça dépend, une fois que t'as gagné, t'es champion du monde à vie, tu vas jouer l'Euro, c'est une bande de potes comme tu dis qui se retrouvent, ils prennent deux ans de plus d'expérience, les mecs ils sont, je veux dire, ils vont peut-être vraiment tout casser à tous les matchs. Et par contre la troisième chose aussi, c'est les autres ils vont pas nous attendre non plus, hein, ils vont se remettre en cause.
Il y a sûrement un peu d'envie de revanche.
Les Allemands, c'est le parfait contre-exemple. On a pensé que l'Allemagne, après la Coupe du Monde 2014, ils allaient peut-être enchaîner derrière avec les grands talents qu'ils ont eus. D'ailleurs, ils ont de très bons jeunes, un championnat qui était en train de monter en puissance. Là, finalement, ils se sont un tout petit peu plantés sur les deux dernières grandes compétitions. Mais c'est surtout que cette équipe de France-là ne va pas forcément surprendre tous ses adversaires très prochainement. Mm-hmm. On a l'impression, c'est vrai qu'ils sont montés un peu en régime, il y a beaucoup de talents dans cette équipe-là, mais je pense pas que les adversaires désormais connaissent l'équipe de France et savent désormais cibler entre guillemets les dangers.
Et puis t'as raté la finale de ton Euro à domicile en 2016 et t'as peut-être envie de la gagner après, quoi.
Oui. Et puis cette équipe de France entre avec quand même pas mal de doutes sur ses latéraux notamment, et elle en sort avec
avec deux latéraux.
Peut-être pas des certitudes, mais beaucoup plus d'assurance. Par exemple,
en tout cas, côté gauche. En tout cas, ça a marché.
Surtout côté gauche.
Ça fait partie de la réussite aussi de cette équipe. Parce que si ça marche pas, Lucas Hernandez, pas d'inquiétude, Pavard un peu plus bien sûr, si ça marche pas, tout d'un coup il faut ressortir deux joueurs qui ne sont pas vraiment prêts à jouer la Coupe du Monde, et là tout le monde tombe sur Deschamps en disant
pourquoi est-ce que
c'est incapable, qu'est-ce que c'est incapable,
il y avait Debussy, il fallait prendre Debussy
en état de jouer, qu'est-ce que c'est que ça,
c'est aussi ça, mais je pense que cette Coupe du Monde c'est aussi ça le mérite de Deschamps,
ça fait partie de la réussite,
non mais c'est son mérite aussi d'avoir finalement compris qu'il est en train de se tromper en essayant d'insister avec Sidy B et Benjamin Mendy jusqu'au dernier match de préparation, finalement en mettant Pavard et Hernandez, mais ça a été coup de maître.
Mais il faudra sûrement, enfin pour résumer le débat, je pense qu'il faudra sûrement, pour que l'équipe de France puisse prétendre à renouveler l'exploit, elle a tous les talents individuels pour le faire, ça c'est évident, et elle a notamment un gros avantage par rapport à l'Espagne et l'Allemagne, c'est qu'elle a des attaquants, ce que ni l'Espagne ni l'Allemagne n'avaient. C'est quand même un gros atout pour durer, mais il faudra forcément améliorer collectivement, parce que maintenant, quand vous allez jouer l'Euro ou les compétitions, tout le monde va dire « Ah, vous êtes champion du monde, hein, à vous de jouer, hein, on va arrêter, tout le monde s'est fait contrer à la Coupe du Monde contre vous, ah bah, allez-y, hein, vous êtes champion du monde, allez-y, attaquez !»
Les Belges, d'ailleurs.
Attaquez.
En tout cas, il y a eu une polémique quand même en sortie de Coupe du Monde, et je voulais qu'on s'y arrête un instant, c'était sur cette histoire de la victoire de l'Afrique. Parce que, évidemment, ça n'a pas été seulement porté du côté du continent africain, d'ailleurs, mais aussi, on se souvient de la déclaration du président du Venezuela, Nicolas Maduro, voire cet animateur,
Obama aussi.
Obama aussi, mais oui, Obama, c'était un peu...
En Afrique du Sud.
Ouais, différent. En tout cas, C'est vrai que 14 des 23 joueurs ont des origines africaines, mais sauf deux, tous sont nés sur le continent africain, français, pardon, sont nés en France, deux sont nés ailleurs, donc c'est Umtiti et Matuidi. La polémique, alors les joueurs s'en sont chargés, on se souvient notamment d'un tweet de Benjamin Mendy, mais Lilian Thuram, qui est désormais, on le sait, alors ancien champion du monde 98, mais surtout militant de la cause antiraciste, avec sa fondation, il a évoqué ce sujet.
Ce qui est très intéressant sur le débat autour du fait de parler de l'Afrique en présentant l'équipe de France qui a gagné la Coupe du Monde, ça montre aussi que la France est en avance. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des pays qui regardent la France comme un pays extrêmement étrange. Parce que la réalité, c'est qu'en fait, certes, il y a du racisme en France, mais c'est que vous pouvez être français et être de couleur noire et être accepté. Mais effectivement, pour d'autres pays, c'est surréaliste. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas. C'est pour ça que dès qu'ils voient un noir, ils le renvoient à l'Afrique.
Vous l'avez entendu évidemment ce débat, Freddy, et vous avez entendu un peu ces envolées parfois ou ces polémiques parfois aussi.
Oui, parfois agaçant, parfois énervant, mais tout aussi compréhensible quand on. Il faut avoir suffisamment de recul, je pense, pour analyser ce débat-là, qui était un débat d'extrême importance, qui a été un peu pris à la légère parce qu'il y a eu un emballement sur les réseaux sociaux avec des gens qui avaient des prises de parole un peu désordonnées. Mais c'est une vraie interrogation de la question de l'identité et même de l'intégration. C'est un vrai débat de fond. Qui, à mon avis, ne peut pas être galvaudé dans des discussions qui durent 2-3 minutes. Mais moi, j'ai suivi notamment avec grand intérêt l'échange qu'il y a eu entre Trevor Noah et l'ambassadeur de France aux États-Unis. C'est là qu'il y a eu c'est là que tu comprends fondamentalement l'intérêt du débat en lui-même, parce qu'il y a d'un côté un diplomate qui est censé représenter la France et un autre qui est un enfant issu de l'immigration et qui a connu lui avec les Sud-Africains qui connaissent ce que c'est que l'intégration et être dans un pays où tu es considéré comme minorité. Et je trouve que à la question de savoir est-ce que l'Afrique, justement, parce que c'est là le fond, est-ce que l'Afrique a gagné la Coupe du Monde, moi, fondamentalement, j'aurais pas eu de réponse stricte en disant oui ou non. J'aurais pu dire oui en me disant l'Afrique a gagné la Coupe du Monde parce que justement, quand on est africain, quand on est africain, on grandit africain, on demeure africain. Ce n'est pas l'Afrique qui a gagné la Coupe du Monde parce que je trouve à la fois extrêmement réducteur les gens qui appellent l'Afrique, en comparant l'Afrique notamment à un pays qu'est la France. L'Afrique n'est pas un pays et donc du coup, ces enfants-là, ils viennent pas d'un pays, donc ils viennent d'un continent. Ils sont africains. Oui, les Africains ont gagné la Coupe du Monde, mais ce n'est pas l'Afrique qui a gagné cette Coupe du Monde-là parce que l'Afrique ne peut pas être comparée à la France. Et il faut que ça s'arrête, ce débat. Et même cette considération que les gens ont du continent africain en essayant de le minimaliser. Et non, justement, l'Afrique n'a pas gagné la Coupe du Monde, parce que ces enfants-là ont grandi, sont nés en France, ont cette identité. La question d'identité et de l'intégration est importante. Quand on se sent d'un territoire, d'un pays, quand on a grandi dans ce pays-là, on a été éduqué par ce pays-là, on représente ce pays et on l'est.
Christophe, d'autant que on se souvient à la rédaction et notamment au sport, vous aviez tous cherché, vous aviez, je crois, même fait un tweet sur la formation de ces joueurs de l'équipe de France.
Oui, bien sûr, parce que ça fait partie du débat, même si ce débat dépasse effectivement largement le cadre du simple football, se sentir français ou pas. Oui. Bon, c'est pas ici qu'on va régler ça, comme le disait très justement Freddy en 3 minutes. Mais à côté de la question de l'origine, s'il faut la mentionner, parce que ça c'est très très, très controversé aussi, est-ce qu'il faut simplement mentionner l'origine? Alors l'origine gabonaise, l'origine ivoirienne, l'origine italienne aussi, l'origine polonaise, enfin, etc.
Ça dépend le regard, moi.
Mais il y a certaines personnes disent pourquoi, à quoi bon mentionner? Ils sont français, point final, ils sont nés en France, voilà. Et puis il y a l'autre question, effectivement, à côté de l'origine, la formation. Et la formation, la formation à la française, tout le travail de ces bénévoles, souvent, de ces éducateurs, de ces entraîneurs dans les petits clubs de village, parfois d'où viennent les internationaux, il est évidemment à prendre en compte aussi dans la réussite de cette équipe.
Mm-hmm. Il y en a deux seulement qui n'ont pas été formés en France, c'est en l'occurrence Griezmann et Hernandez, parce que ils étaient
c'est
en Espagne.
C'est la victoire de l'Espagne. Alors, du coup.
Voilà, sportivement, il n'y a aucun débat. Malheureusement, l'Afrique, aucun pays africain ne peut prendre comme modèle ou ne peut prendre la moindre leçon d'elle-même, enfin, en partant d'elle-même et du travail qu'elle fait sur le continent au niveau football pour dire on a contribué à la victoire. Il n'y a rien d'africain. En termes de formation, il n'y a rien d'africain dans cette victoire. Après, ça a quand même une valeur sociale forte en termes social au sens société. Oui. Quand même très fort, sociétal, voilà, c'est mieux comme terme. Je sentais que c'était pas le bon mot.
Sociétal, et du point de vue du symbole et l'identité ça, aussi, ça, c'est extrêmement important.
Alors, ouais, mais l'identité, c'est un débat qui, en ce moment, est, ouais. est tellement nébuleux et nauséabond dans l'ensemble de la planète que je préfère pas l'aborder ici. Mais sociétalement, il est quand même très important de souligner que pratiquement toujours l'équipe de France s'est appuyée sur des joueurs issus d'une immigration ou d'une autre, qu'elle soit polonaise à une époque, italienne à une autre, africaine aujourd'hui.
Maghrébine.
Et que quelque part, ça valorise la valeur sociétale du football, qui est quand même un des rares domaines où vraiment tout le monde peut être dans le même vestiaire, hein, où ça se passe à peu près toujours bien. Après, bon, il y a sûrement des contre-exemples dans les banlieues et autres. On peut en citer aussi, mais globalement, c'est une force d'intégration extraordinaire, le football. Ça, c'est quand même une valeur forte.
Farid.
Non, mais tout ça, c'est aussi le résultat de la mondialisation du foot. Mm-hmm. Faut pas se cacher derrière son petit doigt. On va revenir 4 ans en arrière, on va prendre l'équipe d'Algérie qui joue contre l'Allemagne à 8e de finale. Il y avait combien de joueurs
nés en Algérie?
Je crois qu'il y en avait eu un sur ce 8e de finale.
Tu l'enlèves de la bouche, mais je vais aller plus loin. Voilà. Continue.
Bah, le Maroc, cette année, Maroc, c'est quoi, 17.
Voilà. Pratiquement.
17 joueurs sur 23, nés en Europe.
Ouais, pratiquement tous les joueurs de ce match-là face à l'Allemagne ont été formés en France. Quelqu'un a dit, c'est l'Algérie qui a gagné. Personne n'oserait dire ça. Personne n'oserait dire ça.
Comme personne n'oserait dire ça. Il y en a qui ont dit que 2002, c'était la France qui a battu la France, puisque l'équipe sénégalaise.
Exactement.
On va prendre le cas du Maroc
en Russie cette année, il y a au moins 6 ou 7 langues dans le vestiaire. Non, mais le cas de la Tunisie, il y avait sur le terrain, il y avait peut-être 8 joueurs tunisiens nés et formés en France.
Je vais aller plus loin que toi, en fait. Cette Coupe du Monde, c'est la victoire de l'Europe. Déjà.
Oui, ça c'est clair.
Dernier carré, on a 4 équipes européennes. Quand on regarde la composition justement des équipes africaines, ils sont pratiquement tous nés ici ou ils jouent tous ici, toutes les équipes africaines. Il y a de plus en plus de naturaliser des 5 continents qui font naturaliser en Europe, qui jouent en Europe. Et puis, c'est quand même un peu le déclin. Maintenant, ça commence à durer pour l'Amérique du Sud.
L'Amérique du Sud a été très bonne sur les 2 dernières Coupes du Monde.
Oui, oui.
Pas à l'arrivée, mais très bonne. Alors que cette année, là, l'Europe a complètement dominé.
Parce que c'est vrai qu'en 8e de finale, la dernière fois, je crois qu'il y avait pratiquement 16. Toutes les équipes latino étaient passées en 8e au Brésil.
Ce serait bien que l'Amérique du Sud se remette à gagner. Puis, c'est surtout dans toutes les équipes, parce que j'avais fait une étude là-dessus, sur les participants. Avant, il y avait très peu de joueurs qui jouaient en Europe. J'ai pris par exemple le cas, je sais pas, de l'Iran ou alors même du Costa Rica, pays d'Amérique centrale ou d'Asie. Il y a de plus en plus qui partent de plus en plus tôt et qui jouent en Europe. C'est le triomphe de l'Europe. Ça améliore le niveau du football européen et on le voit en Ligue des Champions, qui est vraiment maintenant la compétition reine, mais qui écrase tout sur au niveau.
Donc c'est la mondialisation du foot, on est d'accord.
Avec le grand victorieux, c'est l'Europe.
Non mais l'idée. Le mot qu'il prononce, le mot triomphe de l'Europe, c'est extrêmement intéressant parce que d'ailleurs je suis tombé sur un article scientifique d'un de mes profs à Assas qui a comparé entre guillemets la comparaison, je l'ai trouvé assez pertinente, qui a comparé justement le sacre de l'équipe de France avec ce qui s'est passé en 14-18, la première guerre mondiale. L'idée, la question qui est posée, c'est la question de la reconnaissance. Justement, c'est vrai que quand il y en a qui, comme le président vénézuélien, qui utilise la comparaison le fait que l'équipe de France ait beaucoup de Noirs et beaucoup d'Africains, il le fait pour se moquer. Ça, c'est mal. Mais quand on le prend pour se moquer, comme sur les réseaux, en prenant des images, en disant voilà l'Afrique, elle est composée de Noirs, ou même les Italiens, j'ai vu d'extrêmes phrases et des mots de racisme qui sont sortis en disant qu'il y avait beaucoup de petits noirs qui étaient mélangés aux petits blancs bien doués, etc. Ce que je dis, c'est que le plus important, c'est la reconnaissance. Ce qui s'est passé avec la guerre mondiale, c'est que les Africains se sont rebellés entre guillemets en disant pourquoi on ne reconnaît pas que l'Afrique a participé justement à la victoire des Occidentaux, à la victoire entre guillemets des Alliés lors de cette première guerre mondiale. C'est aussi ce qui se passe là. Il y a beaucoup d'Africains. Moi, j'ai vu une partie de la famille de Pogba en Guinée qui avaient des maillots, qui étaient contents que la France ait gagné. Ils étaient devant leur télévision, des images géniales. Eux, ils se reconnaissent comme la famille Pogba. Ils s'appellent aussi Pogba. Eux, ils considèrent que aussi, avec leurs frères, leurs cousins, ils ont gagné la coupe du monde parce que leur frère a gagné. C'est une question de reconnaissance,
de lien.
Simplement de lien. Ça ne s'enlève pas. C'est pourquoi on dit que les Africains. Moi, je préfère l'expression les Africains ont gagné la coupe du monde parce que on est africain, on grandit africain. Même si on a changé de nationalité, les parents ils continuent à envoyer des westerns entre guillemets aux gens au village. Ça veut dire qu'ils restent liés à l'Afrique entre guillemets. Mais dire que l'Afrique a gagné, ça c'est une autre chose. C'est une question de terminologie aussi.
Attention à ce débat quand même. Quand on voit ce qui s'est passé pour Özil, quand on est dans le clan des vainqueurs, tout change. C'est-à-dire que tout d'un coup, quand on est dans le clan des vainqueurs, il est bien possible qu'un certain nombre de des perdants, il est bien possible qu'un grand nombre de Français, tout d'un coup, auraient pointé le côté africain de l'équipe de France, mais avec des visées que vous devinez évidemment beaucoup plus négatives. Et on en aurait entendu des saloperies.
Mais c'est un débat qui vient souvent, pardonnez-moi Annie, c'est un débat qui vient souvent d'ailleurs sur les médias. Beaucoup de gens en Afrique reprochent notamment, quand ça va moins bien, beaucoup de gens disent, on commence à dire, il est africain, il est guinéen, etc. Donc, quand on gagne, la victoire à 1000 pères.
Bon, mais de toute façon, c'était un peu ce qu'on voulait dire pour revenir sur ce titre de champion du monde. On en parlera d'Ozil cette semaine avec notamment David Lortolari qui revient
de vacances.
Ses vacances au Luxembourg.
Je crois qu'il revenait de Londres avec une interview de Zim.
Non, on aimerait bien, mais en tout cas, il est toujours bien renseigné sur l'Allemagne et les Allemands. Mais on va passer directement à Cristiano, Cristiano Ronaldo. Comment va-t-il ?
Approfittiamone per tornare in diretta, che c'è un gran lancio di Bernardeschi per Ronaldo, che è solo posizione regolare. Ronaldo! La prima volta in bianco-nero. Inevitabilmente, Cristiano Ronaldo.
Voilà les premiers pas de Cristiano Ronaldo en Italie, parce qu'il y a encore du blanc sur son maillot, mais le blanc immaculé des Merengue est désormais rayé de noir. Bianconeri et Cristiano Ronaldo qui défendra donc cette saison les couleurs de la Juventus de Turin sous le numéro 7 que lui a cédé gracieusement Juan Guillermo Cuadrado, exactement, le Colombien. Il a bien voulu. Lui, maintenant, il porte le numéro 16.
Est-ce qu'il avait le choix? Est-ce qu'il avait le choix?
6+1 égale 7.
En tout cas, ce qu'on sait, c'est que dès que la signature a été annoncée, c'était autour de la mi-juillet, le 10 juillet, si je ne me trompe pas, 500 000 maillots ont été vendus pour ce joueur qui a été acheté 100 millions d'euros au Real Madrid.
Un peu plus. Non.
Avec les bonus, un peu plus.
Oui, après.
102, 103.
Mais vous n'allez pas chipoter. Vous n'allez pas chipoter. En tout cas, ce qu'il y a d'étrange, on va l'entendre, Cristiano, c'est quand il est arrivé là-bas, du côté de la vieille dame, évidemment, il a chanté les louanges de cette équipe dans laquelle il aurait toujours aimé jouer. Écoutez-le.
Since when I was kid, I look in a lot for this team.
C'est un grand club. Depuis que je suis enfant, je le regarde jouer et je me suis toujours dit que j'aimerais évoluer au sein de cette formation. Alors, le rêve est devenu réalité. C'est un club fantastique, c'est un des plus grands clubs du monde. Je suis heureux d'être là, content de jouer ici. Ce sera peut-être différent à la Juve, différent avec les gens qui y sont. Ils sont gentils, c'est un peu comme une famille. C'est l'impression que j'ai eue en arrivant ici. C'est la même chose du côté des supporters. Donc, je suis enthousiaste et bien sûr, je veux rendre tout le monde heureux. Et bien sûr que nous allons remporter des titres ensemble.
And I will do it my best. For sure, we're gonna win things together. Grazie mille.
Voilà, il commence à parler déjà italien, Cristiano, le portugais. Écoutons quand même la petite remarque de Sergio Ramos. Sergio Ramos, étonné par le mot famille.
Ici, nous nous sommes toujours sentis en famille. Je ne sais pas bien qui il vise, Chris, s'il parle du vestiaire, des dirigeants ou de notre équipe. Mais je peux vous assurer, du point de vue du Real et du vestiaire, que la clé de notre succès toutes ces années, et particulièrement ces dernières années, c'était ce sentiment d'appartenir à une même famille. Sentiment que l'on a eu et que l'on continue à avoir. Maintenant, il a décidé de passer à autre chose. Et c'est très respectable. Qu'il réussisse le mieux possible, et nous aussi.
Muy respetable y ojalá le vaya lo mejor posible y a nosotros igual.
Alors, elle est où sa famille, Cristiano Ronaldo, Philippe Doucet?
Ouais.
C'est dommage qu'ils en arrivent là, je pense.
Non, mais ce qu'il y a de triste, c'est... on voit par rapport au palmarès incroyable durant les années Ronaldo, c'est quand même 9 saisons, c'est qu'il part sans dire au revoir, sans dire notamment faire ses adieux aux supporters. Ouais, c'est comme ça que ça se fait.
Bon, ça accrédite là.
On a vu Javier Pastore quand même venir dire au revoir au Parc des Princes dimanche soir.
Oui, bon, je ne sais pas si c'est comparable à Ronaldo. Je pense que Ronaldo, effectivement, avait plus de raisons de dire au revoir, effectivement. Ben oui. Mais 9 saisons quand même. Il a...
4 Ligues des Champions, 2 Liga, 2 Coupes d'Espagne.
Non,
c'était pas le chouchou du public. C'est un peu surprenant,
mais ça signifie assez clairement que la thèse qu'on a entendue, c'est-à-dire le fait que Florentino Pérez avait été excédé par les déclarations de Ronaldo le soir de la finale, et qu'il avait trouvé que c'était tellement malvenu, très mal élevé de la part de Ronaldo, qu'il l'a congédié.
Oui,
il l'a pas congédié, mais il lui a dit, mais si maintenant tu veux, partir, maintenant tu peux.
Mais il n'y a pas que Florentino Pérez. Nous tous, on avait trouvé ça tellement minable, alors qu'on savait depuis que c'était pour une histoire d'argent, de revalorisation, et qu'il avait envie de se mettre au niveau de Messi. Mais ça accrédite aussi une autre thèse, celle qui dit que le Real Madrid n'honore pas ou presque jamais ces grands joueurs. C'est parti.
Quand les joueurs veulent être plus grands que le club, oui, en général, ils font une grosse erreur. Dans tous les grands clubs, c'est une erreur.
Oui, malheureusement.
Il y a faux grands clubs qu'on peut être plus grand que le club. Mais dans les vrais grands clubs, on ne peut pas être plus grand que le club. Mais non, mais ça n'existe pas. Mais, je veux dire,
après, je pense pas que
très grands joueurs, mais Messi n'est pas plus grand que le club.
Oui, mais Philippe, je pense pas que Casillas ait voulu être plus grand que le Real. Je pense pas que Raúl González ait voulu être plus grand que le Real. C'est juste que des fois, ils sont partis. Ronaldo, c'est un peu particulier. Je pense que son ego l'a un peu trahi. Moi, perso, entre guillemets, je serai jamais président. T'as été président toi, mais moi, je pardonnerai presque jamais ce qu'il a fait entre guillemets pour une histoire d'argent. Tu brises pas entre guillemets l'euphorie parce que le lendemain,
troisième fois qu'il
faisait la une des journaux, c'était pas le sac du Real, c'était le fait que Ronaldo veuille se barrer. Et il avait complètement tout foiré. Et même moi, voilà, ça avait tout gâché, quoi.
Non, mais déjà par rapport aux supporters, c'était pas le chouchou de Bernabéu. Il y a jamais eu des rapports très très chaleureux entre le public.
Oui, on se souvient qu'il demandait toujours qu'on l'encourage. Il les sollicitait un peu, il les provoquait.
Par contre, quand il met une bicyclette contre la joue, là le public l'applaudit.
On peut lui donner raison, justement.
Après, il y a quand même le truc sympa de l'histoire, c'est que voilà, les footballeurs, c'est des hommes d'argent. Messi ne pense qu'au fric, Neymar ne pense qu'au fric, Cristiano ne pense qu'au fric. C'est un sacré challenge. Hein. C'est encore un joueur qui était encore
terminé
très demandé
à Madère dans un petit club, c'est ça?
Non, mais par faire un petit crochet par l'Angleterre, il aurait pu. Bon, après fidélité à Manchester United, à la vie, tout ça. Bon, on peut rigoler, mais à la Juve
avec Mourinho.
Voilà, un autre club.
Non, il n'était pas question qu'il revienne.
Non, mais il aurait pu
un dernier
gros contrat. Non, là, il va en Italie. Il va à la Juventus. C'est un sacré challenge.
Qui est 7 fois championne d'Italie.
Voilà, ça veut dire qu'à 34 ans, le gars, il se pose encore des challenges, des défis sportifs. Et mine de rien, on l'attend tous. Qu'est-ce que ça va donner, la Juventus, avec... Moi, je l'attends, moi.
Quand il m'intéresse. Quand il parle
et
de famille.
Et vendredi, hein.
Et quand il parle de famille, c'est intéressant. Je sais pas si vous avez vu son premier but dans le village du président de la Juventus de Turin. Vous avez vu l'euphorie qu'il y avait autour.
À Villa Pedrosa, là-bas.
Je pense que cet amour-là, au Real, il l'a très peu senti. Alors, les sociaux, c'était un peu sur leur garde. Et ça, en Italie, il l'aura.
Alors, juste un petit point culturel. Il y a une devise, dans les clubs italiens. C'est un club, une famille. C'est, il y a peut-être l'allusion indirecte à ça.
Oui. Puis il était, évidemment,
dans le berceau.
C'est la famille Agnelli, quand même.
Voilà, c'est ça.
Ah, puis on attend surtout de savoir ce qu'il va apporter pour la Ligue des Champions, parce qu'il y est allé pour
sans
ça.
Doute.
Enfin, c'est pour ça qu'on l'a pris. C'est pas pour le championnat. Le championnat, je pense que.
Ils l'ont déjà gagné.
Et là, ils ont été en finale de la Ligue des Champions. Cette fois-ci, ils ont envie de la gagner. Et je pense que c'est ça le challenge. C'est quand même 34 ans. Ouais, c'est comme respect, quand même.
Voilà.
C'est le plus gros transfert de l'histoire. Hein. Parce que 100 millions, enfin 100 ou 105 comme vous voulez, pour un joueur de 34 ans.
Ouais. Philippe, vous disiez que c'est le fait que Cristiano Ronaldo se retrouve à la Juventus, ça signifie aussi que les temps ont vraiment changé, même jusqu'à la Juve.
Oui, c'est vrai, parce que on aurait dit il y a quelques années que la Juve allait recruter des joueurs comme Daniel Alves, comme Ronaldo ou autre. J'aurais dit non, pas la Juve. Non, la Juve, c'est sérieux, c'est comme le Bayern.
Pas sur le fric,
pas trop d'argent. Il y avait Higuain, mais ils avaient vraiment besoin d'un avant-centre à ce moment-là. Ouais. C'était un peu une exception. Bon, très bien. Mais en dehors de ça, des joueurs qu'ils connaissent, qui sont plutôt sur le marché italien, qui sont plutôt des joueurs étrangers qui vont s'adapter aux Italiens et pas l'inverse, etc. Or là, en deux saisons, Bonucci a dit un mot de travers, viré. Ouais. On s'en fout qu'il soit italien.
Non, mais par contre, il revient. Tous ceux qu'ils ont fait venir.
Et il revient, Bonucci.
Tout ce qui revient, mais beaucoup d'étrangers. Ouais. Ils ont pris beaucoup d'étrangers.
Et ça a marché. Kedira, Dybala.
Mais le pire, c'est que ça a marché. Et le pire, c'est que ça a marché.
Et du coup, ils sont omnibulés par l'envie de gagner la Ligue des Champions, oui. Je pense. Et il y a un autre facteur qui est intéressant, c'est que ce qu'Ronaldo a emmené là, maintenant, pour le championnat italien, c'est un gros ouf de soulagement aussi, parce qu'il redevient attractif. J'ai vu les gens qui discutaient, notamment sur la question des droits, sur la question des droits télé. Là, maintenant, ceux qui n'ont pas le championnat italien commence à se gratter la tête en disant dis donc pourquoi on l'a pas.
Ouais, puis le Milan et autres ont mis des centaines de millions également dans le recrutement, donc il y a un retour vers l'Italie que ça fait des années, on est toujours en retard en France, on est toujours à considérer l'Italie c'est fini, etc. Ça fait 10 ans que j'entends ça, sauf que c'est plus vrai, depuis 3-4 ans la Juve était revenue à
alors dans Radio Foot l'année dernière on disait ça déjà
et la Serie A revient, la Serie A revient.
Non, on le disait Philippe, vous souvenez
évidemment,
pas
la Roma, Naples, tout ça revient, le niveau de redevient bon,
pas l'équipe,
c'est la fin de Radio Foot International, elle jouera bientôt et on verra ça. Merci beaucoup à Pierre Guérin qui m'a aidé à préparer l'émission, Richard Riffono donc était à la réalisation, merci messieurs, merci Farid et Christophe, à demain.